Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Quand un militaire part en mission, c'est toute la famille qui est impactée. Comment chacun peut-il se préparer au départ? Comment parents et enfants vivent-ils pendant la mission? Quel impact le retour du militaire a-t-il sur la vie familiale? Famille de militaires, le défi de la mission, c'est l'ouvrage de Mathilde Thibergien aux éditions MAM. Épouse de militaire, psychologue clinicienne et psychothérapeute de couple et de famille, Mathilde Thibergien est en ligne avec nous depuis Bordeaux. Bonjour madame.
Bonjour Isabelle.
Et dans le studio de Radio Présence, Catel de Prec, bonjour.
Bonjour.
Votre mari est militaire et il est parti plusieurs fois en mission de 4 à 6 mois. Vous êtes avec votre fille Priscille, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous aviez 7 ans, 10 ans, puis 14 ans quand votre père est parti en opération extérieure. En tout cas, c'est les souvenirs que vous avez confirmés par votre maman. Vous avez 24 ans aujourd'hui. Vous êtes étudiante en droit entre deux cursus. Voilà, vous attendez les résultats du concours d'avocat. Nous avons aussi une pensée pour Sarah qui devait participer à cette émission. Et en fait, elle est enceinte de son deuxième enfant et elle n'a pas pu venir malheureusement au dernier moment. Alors avec vous, nous sommes dans le schéma de l'homme qui part en mission et de la femme qui reste à la maison avec ses enfants. Évidemment, on sait bien qu'aujourd'hui, ce sont aussi des femmes qui partent en mission et le conjoint reste alors à la maison avec ses enfants. Je rappelle aussi que l'année dernière, nous avons réalisé une émission sur les familles militaires en mission avec un focus particulier sur le couple. Et donc là, nous nous intéressons cette fois-ci aux répercussions sur la famille entière. On va commencer par cette mission avant le départ du militaire. Une mission, ça se prépare en couple et en famille. Catel de Prec, comment vous avez préparé vos enfants à l'épreuve de cette mission et à l'épreuve de la séparation?
Alors en fait, ça dépend beaucoup de l'âge des enfants. Quand ils sont petits, on n'en reparle pas forcément, on leur dit papa va partir, mais on fait rien d'exceptionnel. Par contre, quand ils étaient plus grands, c'est faire une journée un peu particulière juste avant. Alors déjà, on les prépare avant, on leur dit un ou deux mois, papa va partir, donc au fur et à mesure que l'échéance approche, ça va être dans un mois, après dans 15 jours, après. Et quand l'échéance est vraiment proche, en fait, le plus difficile, c'est la veille du départ. Et donc, du coup, quand ils sont plus grands, on leur fait une journée un peu particulière. Par exemple, voilà, c'était un parc d'attractions ou tous en famille pour essayer en fait, de ne pas trop y penser. En fait. C'est mm-hmm. surtout ça, essayer de ne pas penser au départ et que ce soit le plus léger possible.
Priscille de Prec, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ces journées la veille du départ de votre père?
Du coup, donc moi, comme il était parti pour mes 7 et 10 ans, j'ai pas beaucoup de souvenirs parce qu'on n'avait pas de conversation, on était trop petits pour faire ce genre de sortie. Mais effectivement, pour le départ de cette dernière mission, la veille de la journée, la veille de son départ, c'était une journée extraordinaire. Mais même si on essaye de mettre le départ sous le tapis, ça reste quand même ça reste quand même une journée qui est assez émotive parce qu'on sait que le lendemain, c'est le départ pour une longue, longue, longue période.
Ah oui, c'est ça. Plus précisément, Catel de Prec, qu'est-ce que vous avez dit justement à vos enfants plus grands sur le détail de la mission ou peut-être que c'était votre mari qui a expliqué en fait?
On leur dit simplement où ils vont partir. Souvent, en fait... on ne sait pas exactement comment va être le camp, comment ça va se passer, mais on les rassure en leur disant que de toute manière, il y a les moyens de communication et qu'on gardera toujours contact avec papa. Mais on leur dit franchement où le pays, etc. Après, c'est mon mari qui explique sur la carte où ça se situe, etc. Pour que les enfants sachent la distance à peu près qui les sépare de leur papa.
Eh oui, c'est ça. Mathilde Thibergien, vous suggérez dans votre livre d'avoir une sorte de conseil de famille avant le départ en mission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il peut se passer ce conseil?
Oui, l'idée c'est peut-être une fois qu'on a rempli un peu sa malle à trésor de bons moments, comme l'expliquait Madame de Prec, vraiment de pouvoir remplir, se faire un peu ce plein d'amour, c'est en fait réunir toute la famille et puis pouvoir se dire des choses importantes. Et qu'est-ce que l'enfant a besoin d'entendre avant de partir? Ben, c'est voilà, même si on va pas se voir, ben voilà, je serai toujours là pour toi. Le lien d'amour, il s'arrête jamais. Je penserai toujours à toi, peut-être réfléchir à des petites astuces pour se dire comment on peut penser à l'autre, peut-être avec un objet, peut-être se donner un moment privilégié dans la journée où on est sûr que on pense à l'autre et on s'envoie tout son amour. Et puis rappeler aussi à l'enfant qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a une team qui est à côté de lui, qu'il y a évidemment son papa et sa maman qui restent avec lui, mais il y a plein d'autres personnes, peut-être qu'il y a des amis, des grands-parents, des oncles, des tantes, des parrains, des marraines, des professionnels, enfin sentir qu'il y a plein de gens qui vont l'aider à traverser sa mission. Et puis autre point très important, c'est nommer un peu les qualités de l'enfant qui lui permettront de vivre cette mission. L'enfant, il va être très sensible à la confiance qu'on va mettre en lui, en lui disant, bah voilà, je sais que tu as telle ou telle qualité qui font que ça va tous nous aider pour cette mission, que ça va t'aider pour cette mission. Et puis, merci aussi, parce que sans toi, je pourrais pas faire ce métier extraordinaire. Donc, merci un peu de ce cadeau que tu me fais, quoi.
Vous dites, Mathilde Thibergien, qu'il faut rassurer l'enfant hein, sur oui. ses capacités et le fait que ses qualités permettent aussi aux militaires de partir et au reste de la famille de rester. Est-ce qu'il faut aussi le rassurer à propos d'une tristesse qu'il pourrait remarquer chez le papa ou la maman qui reste?
Oui, tout à fait. Dire que c'est tout à fait normal d'avoir ces émotions-là, qu'il peut peut-être les ressentir chez sa maman ou chez son papa, enfin chez les deux d'ailleurs, celui qui reste mais aussi celui qui part, et que c'est tout à fait normal de ressentir de la tristesse ou de se ressentir de la colère, mais qu'il n'y aura pas que ça comme émotion tout au long d'une mission, et qu'une mission c'est plein d'émotions mélangées, et que c'est normal de ressentir tout ça, et que c'est important de ne pas garder ces émotions pour soi et de s'autoriser d'en dire quelque chose à un adulte de confiance.
Souvent les parents veulent bien faire, et celui qui part en mission recommande à ses enfants d'être bien sages jusqu'au retour du militaire, de bien prendre soin du parent qui reste. Du reste, je vois que Katel et Priscille de Frex se jettent un œil. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez demandé à vos enfants?
Pas forcément.
À chaque veille de son départ, il me disait Priscille, tu es la plus grande, tu es l'aînée de trois frères, donc c'est toi qui dois prendre soin d'eux, tu dois leur montrer l'exemple. Rends fière ta maman et puis rends-moi aussi fière indirectement, même si je ne suis pas là. Mais non, c'était vraiment ce rappel à l'ordre, tu es l'aîné d'une fratrie, tu dois montrer l'exemple.
Et comment vous avez reçu cette injonction, si on peut dire,
ou cette
marque de confiance?
Mais je suis fière, je me suis dit, papa, il part pendant au moins 6 mois, il faut qu'à son retour, il se dise, waouh, ça c'est ma fille, je lui ai donné des responsabilités, elle les a tenues, je suis fière d'elle. Mais après, on est jeune aussi, donc on ne se rend pas forcément compte de ce que ça représente. Mais non, cette phrase, elle me donnait confiance et courage pour la suite.
Oui, et de fait, vous avez pris ce rôle très à cœur.
Bah, ça, faut demander à maman.
Priscille, en fait, c'est l'aîné. Après, il y a trois garçons, mais bon, il y a Corentin qui ils sont assez proches. Et ils ont un an d'écart, etc. Donc, voilà. Après, je pense qu'il faut s'adapter aussi à chaque caractère. De l'enfant. Priscille, effectivement, est quelqu'un qui va assez de l'avant, assez fier, etc. Donc, ça correspondait bien. Enfin, c'était bien de lui donner éventuellement ce rôle. Après, j'en ai un qui est hypersensible. Donc, lui, il a plus besoin d'être très rassuré, très coucouné, etc. Enfin, je pense qu'il faut vraiment s'adapter au caractère de l'enfant.
Mathilde Thibergien, vous voulez ajouter quelque chose à propos de ce message qu'on laisse avant de partir?
Oui, bah c'est vrai que c'est tout à fait juste, qu'il faut tout à fait, enfin surtout s'adapter à l'enfant, et je suis heureuse de voir que Priscille, elle en a pris quelque chose comme une source de fierté, peut-être comme une mission pour elle, mais j'ai plutôt l'habitude de dire au cabinet que le job de l'enfant, c'est de continuer à être un enfant, continuer à bien grandir, à s'épanouir, à apprendre à l'école, à jouer avec ses amis, et sûrement pas de prendre soin des uns et des autres. Ça reste toujours le travail du militaire, même s'il est est loin, c'est toujours son travail de prendre soin de son épouse ou de son époux, de continuer à prendre soin de ses enfants. Et puis c'est aussi la responsabilité, par exemple, si c'est la mère qui reste, bah, c'est sa responsabilité aussi de prendre soin d'elle et de se dire bah, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça se passe bien, et si je vois que ça se passe pas bien, bah, sur qui je peux m'appuyer de manière à équilibrer le plus possible les choses pour mon enfant. C'est jamais un enfant de porter son parent, même si chez tout enfant cette pulsion un peu de protection envers le parent. Mais je crois que peut-être ce qui peut-être est un petit peu plus ajusté à l'enfant, c'est d'entendre ben voilà, on est une équipe, on est tous ensemble, donc il faut s'entraider, il faut que chacun donne le meilleur, mais les adultes restent les responsables finalement du bien-être des uns et des autres.
Mmh. Oui, ça c'est important. On fait partie de la même équipe et voilà, on va vivre pendant cette absence du militaire en se serrant les coudes et en comptant les uns sur les autres et en prenant soin les uns des autres en fait. C'est plus cet état d'esprit.
Exactement. Mmh. Exactement.
Y a aussi cette phrase qui peut rassurer, mais qui peut faire aussi peur du militaire qui dit avant de partir, mais t'inquiète pas, je reviendrai. Est-ce que ça, c'est une promesse qu'il est bon de faire, Mathilde?
Oui, ça c'est vrai que c'est toujours, je trouve, la phrase un petit peu délicate, parce que on peut pas, c'est une promesse qu'on peut pas toujours, enfin on ne sait pas si on va pouvoir la tenir ou pas. Moi je sais qu'avec les militaires au cabinet, on travaille plutôt à dire je fais tout pour revenir. Je fais tout pour revenir. Et tu as vu, je suis déjà partie, je suis revenue. Voilà, je suis très bien entraînée. J'ai confiance envers les personnes avec qui je pars et je vais tout faire pour revenir. Il me semble que c'est un petit peu plus juste que je te promets de revenir. Mais même quand on part le matin, en fait, finalement, cette promesse, elle est toujours un petit peu incertaine. Et c'est vrai que ça, c'est important parce que ça en va quand même de la fiabilité de la parole de l'adulte, en fait. C'est-à-dire que si les choses se passent mal, bah, l'adulte, en fait, m'avait promis, quelque part, il m'a trahi, donc je peux plus jamais faire confiance à un adulte. Donc c'est vrai que là, il faut vraiment peser ses mots. Et cet équilibre entre la protection et le principe de réalité n'est pas toujours très facile à trouver, quoi.
Oui, c'est ça. Si on se place du côté du militaire, Katel Deprecq, vous me disiez que voilà, c'était aussi important de parler de celui qui part. Dans quel état d'esprit est-il avant le départ en mission et comment il peut garder ce lien et rassurer ses enfants avant de partir ?
Alors, déjà montrer le pays, là où il va partir, etc. Parler, effectivement, de la guerre, de ce qui se passe. Après, encore une fois, je pense que chaque enfant est différent. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu. J'en avais un, surtout, qui était très angoissé, qui ne dormait pas. Enfin, et du coup, j'avais fini par consulter quelqu'un et qui m'avait dit, et je trouvais que c'était pas idiot de dire... Écoute, si papa, on ne sait jamais, effectivement, il peut parvenir, mais tu ne seras jamais seul. Il y a tes grands-parents qui pourront être là et il faut que tes grands-parents disent on t'abandonne. En fait, c'est la peur de l'abandon, je pense,
oui,
qui ressentait. Et de leur dire on vous abandonnera jamais. Il y aura toujours quelqu'un qui prendra soin de vous. Donc, après, quand ils sont petits, c'est vrai que moi, j'occultais complètement le fait qu'il puisse y avoir un danger. Et d'ailleurs, mon mari ne disait pas « je reviendrai, je te promets ». Enfin, c'est « on se retrouve dans 6 mois ». Après, voilà, nous, on a eu un événement qui nous est revenu en pleine face, justement, où je leur avais caché. C'était en Afghanistan quand il y a eu tous ces morts, malheureusement. Et quand les enfants sont rentrés en classe, parce que moi, je prévenais toujours les maîtresses en disant attention,
prudent.
Voilà, mes enfants vont être séparés de leur papa part. Donc, si vous voyez qu'ils sont un peu grincheux ou tristes, c'est pourquoi. Donc, c'est le pourquoi. Et du coup, quand ils sont revenus en cours, en classe, tous les enfants sont venus voir mes enfants en disant, mais ton papa est mort. Enfin, et là, ça a été très, très difficile à gérer parce que, effectivement, je ne leur avais jamais dit que la mission de leur papa pouvait
comporter un risque.
Donc là, il a fallu tout reprendre et tout réexpliquer et tout rassurer. Et ça a été une période très compliquée.
Ouais, d'où l'importance vraiment d'anticiper. Ouais, vous avez, Mathilde Hibergien, dans votre livre, des petites phrases qu'on peut dire pour avant de partir. « J'ai confiance en toi, tu peux toujours compter sur moi, tu peux t'appuyer sur les personnes qui t'aiment », vous le disiez. Et puis le militaire qui peut dire « Je fais un métier extraordinaire, je le fais grâce à toi », ce que vous nous disiez aussi. C'est toutes ces petites phrases qui peuvent rester un peu comme des mantras dans le cœur. Vous, Priscille, vous aviez eu des petites phrases comme ça de votre père avant qu'il parte et auxquelles vous êtes accrochée?
Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs là-dessus. Je pense que vraiment les derniers moments, le précédent son départ, j'ai vraiment tout occulté. Parce que c'est vraiment pas facile. Donc non, j'ai pas beaucoup de
souvenirs. Ouais. Alors peut-être que mystérieusement, ça vous a tenu, mais en tout cas, voilà, le souvenir n'est pas présent aujourd'hui. Si on parle maintenant du départ du militaire, vous nous avez dit, Katel et Priscille, que la veille, c'était une journée difficile, mais du coup, vous essayez de vivre quelque chose de particulier. Mathilde Hibergien, quel conseil vous donneriez?
Que Priscille dise qu'elle n'en a pas forcément de souvenirs, des paroles qui ont pu être dites, etc. Parce que ça, c'est un phénomène qu'on connaît bien dans la clinique des familles militaires. C'est que cet arrachement, vraiment le moment de l'arrachement, il est tellement violent que parfois il est traumatique. Ça m'est arrivé de devoir faire des séances de MDR, donc une technique vraiment utilisée dans le psychotrauma. Tellement l'arrachement, le moment des au revoir a été extrêmement violent, quoi. Donc c'est pour dire un peu la charge émotionnelle qui se passe à ce moment-là pour les enfants, pour le militaire, pour son conjoint. Quoi faire pour vivre au mieux? J'ai envie de dire, dans ces cas-là, on essaye de faire comme on peut. Vraiment, il n'y a pas forcément de technique magique, mais on peut réfléchir un peu en famille avant, en disant, ok, qu'est-ce qui serait peut-être le moins douloureux pour nous? Est-ce que ça serait de se dire au revoir à la maison? Est-ce que ça serait de se dire au revoir devant le bus, le bateau, le train, le déposer au régiment? Surtout pas. Enfin, voilà, de réfléchir pour que ça soit quand même dans un moment, ou dans un lieu le moins effractant possible. Et puis de se dire, juste après, pour celui qui reste et ses enfants, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense à une famille qui me disait, nous, systématiquement, c'est la seule fois où on mange des bonbons devant un film dans le lit des parents. Qu'on ne fait jamais. Là, on ne fait pas un film, on fait deux films jusqu'à un peu épuisement. Il y en a d'autres, ils partent tout de suite. Ils vont chez des amis ou chez des grands-parents. Enfin, là, je crois que c'est propre à chaque famille et qu'il est bon de se poser la question en amont, en disant peut-être qu'est-ce qui serait le moins violent, sachant que violence, il y aura, quoi.
Oui, et de quoi on aura besoin. Après, il faut que le départ coïncide avec une période de vacances. Voilà, s'il y a cette possibilité de partir chez des amis ou des grands-parents, quand il faut retourner à l'école le jour même, voilà.
Oui, mais ça, je crois que justement, c'est aux familles de discerner, de se dire, peut-être que mon enfant, mon ado, n'est pas en capacité d'aller au collège ou au lycée, ou au contraire, il a besoin d'avoir sa sécurité, il a besoin d'avoir ses rituels, et au contraire, c'est important pour lui d'y aller. D'où l'idée d'en discuter ensemble avant pour voir qu'est-ce qui serait le plus aidant.
Mmh. Vous, Katel Duprec, vous avez quand votre mari est parti en mission, les enfants sont allés à l'école comme d'habitude, ou il y a ce genre de question qui s'est posée?
Alors, ce genre de question s'est posée, mais c'est vrai que moi, je reviendrai vraiment sur le dernier au revoir. Ça, c'est vraiment un moment qui est compliqué, quoi. Enfin, c'est vrai que du coup, les enfants, en général, nous, ils partaient à chaque fois, ils partent très, très tôt le matin. Donc, les enfants sont encore au lit. Donc, du coup, le dernier au revoir avec les enfants, c'est toujours...
C'est le soir, la veille, oui. Ouais, dans les larmes.
La veille du départ.
Ah oui.
C'est le cri du cœur.
Ouais. Ouais. C'est le... Donc, après, on a du mal, du coup, parce qu'en général, ils reviennent encore un dernier... Et toi, Priscille, tu disais que tu avais...
Ouais, c'était pour sa dernière mission. Il était parti dans les alentours de Pâques. Je pense que c'est vraiment son départ précédé à la fête de Pâques. Et je me rappelle que pendant la chasse aux œufs, j'avais dégoté un énorme œuf et que j'ai déposé le soir. Je pense qu'il devait être assez tard, mais les parents étaient encore dans le salon. Et vraiment, j'ai déposé au milieu du couloir qui menait à ma chambre et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et papa est venu, il m'a dit, tu sais, ma fille, c'est toi qui l'as trouvé, c'est le tien. Et c'était le dernier souvenir que j'ai avant que papa parte. Après, quand on pleure, on est fatigué, on s'endort direct.
Voilà. Et donc, du coup, et nous, enfin, bon, après, dans le couple, on se dit au revoir. Et du coup, alors, nous, c'est vrai que moi, j'ai essayé de laisser le plus de normalité, si vous voulez, de continuité.
Pas trop changer le rythme.
Pas trop changer le. Le rythme, donc si c'était à l'école, eh ben, ils y allaient. Mais c'est vrai que je faisais des choses un peu plus un super goûter quand oui, j'ai récupéré ça. Ou j'allais un chercher entre midi et deux. Ouais, beaucoup plus de légèreté. Et si ça correspondait aux vacances, on partait tout de suite en famille.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que disait Mathilde Hibergin. Je vous propose, Catel et Priscille Deprec et Mathilde Hibergin, de nous arrêter quelques instants. Et vous nous direz juste après comment vous avez vécu les différentes missions militaires et ce qu'elles vous ont apporté. Nous écoutons La Famille, interprétée par Marc Dupré.
Isabelle Duché.
Comment la famille vit-elle la mission du militaire? C'est le sujet de nos échanges dans Vivante Église aujourd'hui et l'objet du livre de Mathilde Hibergin, Famille de militaires, Le défi de la mission. Nous sommes aussi avec Catel et Priscille Deprec, respectivement femmes et filles de militaires, parties en opération extérieure à de nombreuses reprises. Vous écrivez, Mathilde Hibergin, que la mission pour l'enfant est un défi psychique intense. Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est vrai que c'est un challenge énorme en fait pour un enfant de continuer à se développer, à grandir tout en vivant une expérience de séparation aussi intense. Et du coup, ça va forcément avoir des répercussions sur son développement en fait psychique, cognitif, physique, etc. Donc, continuer à bien pousser quelque part en supportant cette séparation si radicale. C'est un véritable défi, quoi.
Oui, Priscille Depré, comment vous avez vécu vous ces périodes de mission?
Comment on les a vécues? Ben, au début, c'est toujours hyper compliqué parce que on sait que la figure paternelle n'est plus là. Surtout que moi, j'avais pas trop de mal à distinguer l'absence de mon papa parce que j'ai quand même trois frères, trois petits frères. Quand la présence masculine, l'homme fort de la famille n'est plus là, ça se remarque.
Ça change l'équilibre.
Ah, complètement. Mmh. Donc je pense que c'est vraiment les deux premières semaines qui sont très très compliquées. Mais après, on est jeune. Donc du coup, on a nos habitudes, on a l'école, on a nos amis, on a certes les retrouvailles avec toute la famille le soir. Donc je pense que c'est vraiment le début. Du départ qui est compliqué, mais après, on s'y fait, on s'y habitue.
Mmh. Oui. Et il peut y avoir des réactions différentes hein, des enfants. Vous disiez que chaque enfant était différent, qu'à tel de près qu'il peut y avoir des enfants plus ou moins sensibles. Il y a des symptômes, par exemple, comme l'énurésie, des terreurs nocturnes, des colères, des peurs quand il y a un nouvel environnement. Est-ce que vous, Katel, vous avez été confrontée à ce genre de difficultés et comment vous les avez surmontées?
Alors oui, les peurs, oui, il y a des... Alors je me souviens de... J'en ai un dès qu'on se retrouvait avec des familles dont il y avait le papa. Tout de suite, il se refermait sur lui-même, ça lui faisait penser à son papa. Et au manque. Et donc, du coup, il se renfermait, il était triste. Alors que les autres allaient plus spontanément, justement, vers le papa, parce que, enfin, pour combler un peu ce vide. Donc, en fait, chacun est très, très... Chaque enfant est complètement, complètement différent, même au sein d'une fratrie. Et donc voilà, après...
Vous avez eu d'autres réactions, type terreur nocturne ou
Surtout terreur nocturne, non, sinon... des crises de colère, c'est ça qui est compliqué aussi. C'est sûr que ils sont jeunes, donc ils en profitent. Hein. Il n'y a plus l'autorité du papa, donc il y en a certains... Ou certaines.
Dis les mamans.
Qui en profitent
grandement. Donc c'est ça qui est difficile en fait, c'est de se dire je serre la vis, mais aussi les pauvres, ils ont plus leur papa, donc où moi je dois me positionner, et donc du coup naturellement je lâche. C'est sûr que je lâche un petit peu du lest.
Donc vous essayez d'avoir de l'autorité quand même pour
un minimum
combler celle de l'absence due à l'absence du père, mais à côté de ça vous essayez de ne pas être trop dur.
Tout à fait, pour en disant peut-être c'est ridicule hein, mais en disant allez, ça va apaiser un peu la douleur, le fait que leur papa soit pas là, et puis que aussi on garde une bonne harmonie au sein de la famille, qu'il n'y ait pas de conflit, parce que déjà s'il y a des conflits, déjà la mission est difficile, le départ, alors si en plus on se rajoute des conflits, ça deviendra assez difficile à gérer.
Mathilde Hibergien, vous voulez réagir?
Oui, c'est vrai que souvent ces manifestations émotionnelles assez intenses, c'est une façon pour l'enfant de décharger, ou pour l'adolescent hein, d'être dans le conflit ou d'être dans le repli sur soi. C'est une façon de montrer qu'il y a quelque chose qui est compliqué à gérer pour lui. Et finalement, c'est toujours... Alors c'est embêtant pour les familles, mais quelque part c'est bon signe, c'est-à-dire que l'enfant s'autorise à montrer quelque chose, à en dire quelque chose. Et l'idée c'est de pouvoir entamer un dialogue autour de ça. Ce qui est plus inquiétant, c'est les enfants qui montrent rien, pour qui c'est totalement transparent et on dit « ah non, mais absolument aucun problème, il n'y a pas d'avant, après, départ ». Ça, c'est plus embêtant parce que potentiellement, c'est un enfant qui encaisse tout ou un adolescent et qui peut un peu exploser quelques années plus tard sur tout ce qui était à l'intérieur de lui, qui ne s'est pas autorisé à lâcher. Là, j'ai récemment que un adolescent au cabinet qui en fait son papa est beaucoup parti pendant les premières années de sa vie. Sa maman me disait mais non mais vraiment il le vivait trop bien, aucun problème. Et en fait c'est aujourd'hui où l'adolescent dit mais en fait c'était terrible pour moi, mais je m'autorisais pas à en dire quoi que ce soit, et même moi je me rendais pas compte à quel point ça me faisait mal, mais maintenant que je me dois me séparer de temps en temps pour aller une semaine ceci, une seule par là, ou quand le père part, ben c'est extrêmement violent pour cet adolescent qui déclenche des angoisses de séparation massives et qui sont forcément le reliquat en fait de ce qu'il a encaissé petit.
Priscille Depré, que vous avez des souvenirs de réactions qui sont arrivées pendant l'absence de votre père quand il était en mission?
Encore une fois, non, j'ai pas beaucoup de souvenirs, donc je pense que c'est vraiment un moment qu'il faut demander. Je pense qu'il y a certainement des moments où j'ai dû être bien énervante et d'autres moments où j'avais besoin de ma maman et de mes frères, mais encore une fois, pas beaucoup de
souvenirs. En tout cas, vous avez manifesté pendant l'absence de votre père, ça n'a pas rejailli après. Vous n'avez pas eu une crise d'adolescence terrible qui était due à ces absences répétées?
Je pense pas.
Pas de me dire. On voit Katel qui cherche.
C'est sûr que, enfin, ils en parlent de l'absence de leur papa. Ça, c'est une évidence. J'en ai un. Mon mari n'était pas là à la naissance. Il n'était pas là. Quand il a eu ses 1 an aussi. Tout ça, c'est. Peut-être que plus tard, ils en parleront. Après, ils sont hyper pudiques. Ils sont comme leur papa, assez pudiques. On parle pas trop de ça. Priscille, elle est moins pudique et elle dit plus les choses. Mais écoutez, ils ont l'air bien dans leur peau, ils ont l'air bien. Ils m'ont pas fait de grosses crises.
Outre mesure. Mathilde Thibergien, qu'est-ce qui se joue précisément dans ce lien entre l'enfant et le parent pendant l'absence du parent?
Avec le parent qui reste ou
non,
le,
qui part.
Le parent qui part, tout l'enjeu, qu'Athèle le disait tout à l'heure, c'est que l'enfant ne se sente pas abandonné. C'est-à-dire qu'il va forcément être impacté par le manque, il y a déjà un manque physique du parent, mais qu'il sente que le parent ne l'abandonne pas, qu'il est toujours aimé du parent, qu'il est toujours son enfant, et quelque part qu'il est toujours sous sa protection, et qu'il peut aussi échanger avec lui, qu'il peut ne pas être d'accord avec lui. Souvent, les adolescents, c'est important en fait que sentir que l'autre, quelque part, est encore présent, même si ce n'est plus le cas physiquement. Ça, c'est l'enjeu principal, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un abandon total du militaire parce qu'il n'est plus là, qu'il débrouille avec les moyens du bord pour continuer à être l'époux ou l'épouse, pour continuer à être le père ou la mère, même à distance. Ça, c'est fondamental.
Comment, quelles petites astuces peut-il y avoir pour garder ce lien? Je vois que Priscille opine du chef. Qu'est-ce que vous aviez, vous, comme astuce pour rester en lien avec votre père?
Comme astuce, alors je crois que mes frères avaient fait pareil. On avait collé une photo de papa sur le terrain, sur l'avant de notre agenda. Comme ça, au moins, pour les devoirs, on était sûrs de l'avoir avec nous. Ensuite, moi, j'attendais avec impatience les lettres de mon papa, que j'ai toujours conservées et que je conserve encore.
Et vous lui répondiez?
Est-ce qu'on lui répondait, mais de manière groupée? Mes papas, en fait, faisaient des lettres individuelles. Donc, du coup, on avait chacun nos propres lettres, du coup, que j'ai toujours dans mon tiroir. Et voilà, à chaque moment de nostalgie, je les relisais. Ensuite, alors, c'était pas vraiment un mémo technique, mais on avait les Skype qu'on attendait avec impatience. Maman détestait ça, mais nous, c'était vraiment la chose qu'on attendait le plus. Voilà, on voyait notre papa, il nous montrait sa chambre, il nous montrait... il ne nous montrait pas vraiment le terrain, mais enfin juste le fait de le voir, déjà, ça nous rassurait en mode, il est vivant.
Et ça, c'était toi, une fois par mois ou plus souvent?
Oui, beaucoup plus souvent.
Beaucoup plus souvent.
D'accord.
Mais bon, c'était un peu difficile à organiser, je crois, ce que maman disait.
Oui, parce que tout le monde, le problème de Skype, c'est que vous avez un petit écran d'ordinateur et tous les enfants, vous voulez être sur la caméra et ne faut surtout pas bouger. Tout le monde parlait en même temps, donc... Et bien sûr, lui, c'était toujours au moment des repas où, en fait, nous, quand on est en base arrière, en fait, tout est millimétré. Enfin, surtout quand vous avez plusieurs enfants, il y a les devoirs, il y a les conduites, il y a les bains, tout est hyper millimétré. Donc, du coup, s'il y a quelqu'un qui vient, et donc, du coup, bon, c'était un moment super pour les enfants, mais c'était toujours au moment des repas où il fallait sortir de table pour aller...
Et ça, ça perturbait le fonctionnement de la famille.
Pour moi.
Pour maman. Mais pour nous, c'était ce qu'on attendait le plus. Quoi. Entre les lettres et les Skype, c'est ce qu'on attendait le plus.
Outre ces lettres et ces Skype, Mathilde Thibergin, quel autre moyen de tisser ce lien, de garder ce lien avec le militaire parti en mission?
Oui, alors ça va dépendre vraiment du théâtre d'opération, hein, parce qu'il y a des opérations ou des unités où il n'y a pas ce lien possible par Skype ou par téléphone, donc ça peut être un peu compliqué. Donc là aussi, il faut s'adapter en fonction des missions. Mais ce qui est pas mal, c'est par exemple d'avoir un objet un peu transitionnel. Je pense à une petite fille qui donnait son doudou à son papa, enfin le double du doudou, parce que sinon oui. Ça devient très très compliqué. Mais et puis son papa prenait le doudou en photo dans différents endroits de la mission et envoyait ça à sa petite fille. Donc c'était une façon pour eux de garder un lien. Il y a des couples par exemple, je pense à une femme, quand elle partait en mission, elle partait avec plein de bouquins que son mari avait en double. Et comme ça, en fait, ils échangeaient sur « Ah, t'as lu ça, est-ce que t'aimes ça ?» etc. Ils gardaient un peu cette complicité autour de ça. Il y a la famille qui peut, quand c'est possible, envoyer des colis aux militaires. Donc là, ça permet de garder un lien. Ben voilà, je t'envoie des choses que tu aimes, des lettres, des dessins. Enfin voilà, tous ces objets transitionnels qui ont pour but de faire le lien entre la personne qu'on ne voit pas et celui qui reste.
Et oui, bien sûr. Alors c'est vrai que quand le militaire est en mission, la vie continue. Il y a des heureux événements, il y a aussi des difficultés. Comment les vivre sans le militaire et comment l'associer à ces événements?
Ouais. Alors moi là je voulais rebondir sur les objets là, c'est nous ce qu'on faisait et ça mon mari aimait bien et les enfants aimaient beaucoup, on se faisait des films donc j'avais la chance d'avoir des maîtresses aussi, surtout quand ils étaient petits qui étaient assez sympas et qui filmaient mes enfants
pendant la classe,
donc du coup quand ils partaient pendant 6 mois, au moins ils voyaient un peu l'évolution, voyaient ses enfants vivre, etc. Et après, lui, de son côté, faisait aussi des petits films. Et ça, on attendait ça avec impatience, ouais. Parce qu'on voyait un peu complètement son environnement. Et lui, voyait comment... Enfin, que tout se passait bien. Et ça, c'était vraiment...
Non, ça, c'est rassurant.
Ah, mais complètement. Et du coup, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'ai 3 musiques qui me rendent extrêmement nostalgique, qui sont les musiques des films que papa nous a envoyés. Ah. Donc, du coup.
Oui. Sur ces événements, heureux ou malheureux, que vous avez pu vivre pendant que votre mari ou votre père était en mission, quels souvenirs vous en gardez et comment ça vous a renforcé au niveau de la fratrie ou au niveau de l'unité de la famille? Qu'a-t-elle de près?
Bah écoutez, non, enfin c'est surtout le fait de se recentrer, enfin je pense que c'est humain, enfin on se protège, donc du coup on se câline, on se recentre vraiment que sur nous, dans notre petite bulle, et après une fois que comme disait Priscille, c'est ouais, les 15 premiers jours qui sont difficiles parce qu'il faut qu'on arrive à trouver un peu son rythme.
Et, ouais, et retrouver l'équilibre.
Ouais, l'équilibre. Et après, là, on s'ouvre. On s'ouvre. Mais, donc ça, c'était vraiment les moments qui étaient assez forts. Avec la famille aussi, où on a quand même été... j'ai eu de la chance d'avoir... mes parents et puis ma belle-mère qui pouvaient venir de temps en temps.
Ça soulage quand même.
Voilà, ça soulage quand même beaucoup. Ouais. Et puis aussi les parrains qui prennent le rôle aussi du papa qui était un peu... qui était présent aussi. Donc voilà, on essaye de faire le maximum. Et de... Alors bon, parce que j'avais Corentin, je privilégiais aussi les familles. On se voyait beaucoup entre familles de militaires dont les maris partaient. Et ça, du coup, ça, c'était vraiment... Pour nous, c'était hyper important parce qu'on... En fait, le civil, alors même s'il essaye de nous aider, mais il ne peut pas vivre... il ne vit pas ce que... Enfin, il ne peut pas comprendre ce que nous, on vit. Et donc, du coup, moi, personnellement, on voyait beaucoup des amis dont les militaires étaient partis. Du coup, on partageait...
Les mêmes difficultés. Comment la foi vous a aidé à traverser ces périodes de mission, Priscille?
Alors nous, on avait un rituel qui s'est dissipé avec les années, mais on l'avait pendant très très longtemps, c'était la prière du soir. C'était quelque chose d'obligatoire que papa notamment avait instauré avec maman. Et pendant pendant que papa était en mission, c'était vraiment notre point d'accroche le soir. Donc en dehors de dire hein, je vous salue Marie et hein, notre père, voilà, notre pensée elle allait directement pour papa. Et ça, je pense que c'était vraiment, vraiment très, très important pour nous.
Qu'a-t-elle, mmh. Vous voulez compléter?
Oui, 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 tout à fait. C'était, nous, ce qui... la foi, c'était... Bon, après, moi, en tant qu'épouse, c'est sûr de prier pour mon mari et mes enfants. Mais c'est vrai que c'était quelque chose de très important qu'on se ressente le soir, qui est ce moment de calme où on fait... on est tous unis et on fait la... Et on fait la prière. Après, pour les, au niveau, ce qui était un peu difficile, c'était les grosses périodes de fêtes comme Noël, Pâques ou là.
Quand on est seul, c'est pas facile.
Quand on est seul, c'est pas facile parce que c'est des périodes normalement
en famille
de joie. Donc bon, voilà, on allait à la messe, comme on allait tous les dimanches. Mais c'est vrai que ça avait une saveur un peu particulière.
La fête était un peu teintée.
Était un peu teintée, même si lui, de son côté, nous montrait, parce qu'il avait inscrit, par exemple, quand il n'était pas là pour Noël, il nous avait montré sa crèche. Nous, on lui montrait la crèche qu'on avait fait. Donc, il y avait tout ça. Et les enfants savaient que de son côté, il vivait aussi sa foi, mais qu'on était entre eux. Même si la distance était loin, on était quand même tous... tous unis, mais bon, ça a une saveur quand même particulière d'être séparés.
Oui. Pour terminer, Mathilde Hibergien, ce moment du retour, qu'est-ce qui est important de vivre pour les enfants avec le militaire qui revient ?
Un moment qui est très idéalisé et qui est forcément plus complexe dans la réalité. Donc là aussi, ce qui est très important, c'est de préparer ce retour, de se dire de quoi on va avoir besoin pour le vivre le mieux possible, dans quelles conditions, est-ce qu'on a besoin de dormir, se reposer, rester, partir, sur quoi on se met d'accord. Se dire aussi que c'est normal de tâtonner, de prendre du temps. Quoi. Voilà, évidemment, on va se jeter dans les bras les uns des autres et puis après, on aura de temps en temps des frictions et c'est parfaitement normal. Mais l'enfant, ce dont il a besoin, c'est d'avoir un maximum de moments quand même avec son parent, d'avoir des moments privilégiés avec son parent et aussi d'avoir des moments avec ses deux parents parce qu'il a connu toujours un moment avec juste l'un et donc c'est très important pour lui qu'il retrouve une forme entre guillemets de normalité. Je suis avec les deux, je peux baisser en tension, tout va bien, voilà, c'est ça dont l'enfant a besoin. Et puis d'être félicité, d'avoir tenu cette mission, d'être reconnu dans tout ce qu'il a donné pendant cette mission, d'être valorisé là-dedans, d'avoir un autre conseil de famille, on en parlait tout à l'heure, mais cette fois pour se dire bravo, pour être félicité, pour échanger des cadeaux. Souvent, le papa et la maman, quand ils reviennent, ils ont des petits cadeaux pour chaque enfant, c'est très important, et d'avoir bien là aussi noter ce qu'on a vu comme qualité chez l'enfant. Ça pour dire que tu vois, de cette expérience difficile, tu vas pouvoir t'appuyer là-dessus tout au long de ta vie, te dire que tu as vécu des choses extraordinaires et que tu as des sacrées ressources et que tu peux être fière de toi.
En tout cas, on peut témoigner, puisqu'on en a parlé avant cette émission avec Catel et Priscille Deprez, que le retour du militaire, c'est vraiment une grande joie. Et toutes ces difficultés dont on a abondamment parlé pendant cette émission ne peuvent pas étouffer en fait, la joie du retour et des retrouvailles.
Ah, ça, c'est sûr. C'est un moment qui est magique. Magique. Après, pour moi, c'est sûr que les enfants l'accaparaient. Donc, ils ne pouvaient pas faire un mètre sans que...
retrouver sa place.
Voilà, c'est un peu compliqué. Et aussi, pour la naissance là, de mon fils qu'il n'avait pas vu, là, oui. Mon mari était... on ne pouvait plus le séparer de le séparer de Loïc. On avait l'impression qu'il voulait rattraper un temps...
Tout ce temps perdu.
Tout ce temps perdu. Mais c'est sûr que le retour, c'est magique.
Bon, alors on restera sur cette belle image. Merci beaucoup, Catel et Priscille Deprec. Merci, Mathilde Hibergien. Je rappelle le titre de votre livre, Famille de militaires, le défi de la mission chez MAM. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie. Merci à toutes trois.
Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.